yourself as you are, without judgment. See what is. You have no further problem.
Bienvenue à un autre balado dans la série Nourrir sa tête sans affamer son cœur avec le yogi de Wall Street. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Dominique Gagnon, qui est le cofondateur, co-président de Connect & Go, aussi conférencier, aussi auteur à succès et récipiendaire d'un paquet de prix d'entrepreneurs de la jeune chambre de commerce, entre autres, et ainsi de suite. Merci Dominique d'être là. Parle-moi donc un petit peu rapidement de ton parcours de Connect & Go, où tu es rendu en ce moment. Ça fait quoi Connect & Go? Je sais que vous étiez au Grand Prix récemment et puis vous êtes un peu partout. Là. Parle-moi donc de ce que ça fait.
Oui, bien Connect & Go, on est le leader au monde dans les bracelets intelligents dans le monde du divertissement. Ça veut dire qu'on a développé un bracelet, mais qui peut être aussi une carte, qui permet de contrôler les accès, donc les entrées et les sorties sur des sites. Entre autres, c'est nous qui contrôlons tous les accès aux villages olympiques. On a fait Pyeongchang, on s'envole pour Tokyo en 2020. Je pars cette semaine, je vais rencontrer le comité olympique de Paris vendredi. On fait du paiement, donc la possibilité de mettre sa carte de crédit ou de déposer de l'argent dans son bracelet, en fait, pour rendre le paiement invisible. Un peu ce que Uber nous propose comme expérience. On rentre dans Uber, on a l'impression que c'est gratuit. Puisqu'on sort, puis ça bille notre carte de crédit automatiquement. Donc, pourquoi pas faire la même chose sur son bracelet? Vous allez dans un parc d'attractions, je veux deux consommations, scanne le bracelet, ça paye automatiquement. Et développer des expériences autour des fans, autour des gens qui vont dans le monde du divertissement, qui est connecté avec les bracelets. Donc, on travaille dans une vingtaine de pays aujourd'hui. On est un peu plus que 90 personnes.
Une vingtaine de pays, quand ouais. même. Impressionnant. Puis ça a été fondé en 2000...
Ça va faire 7 ans. Tu vas voir que je suis mauvais en maths. Donc, c'est 7 ans.
Croyance limitante, exact, ça, je suis mauvais en maths.
Exactement. 7 ans moins aujourd'hui.
Puis il y a un autre volet aussi que je n'ai pas compris, mais j'ai vu sur le site là, qui te permet de prendre des photos avec ton GoPro aussi, qui va automatiquement...
C'est toute la portion expérience. Fait qu'on a développé toutes des portions. Exemple, on travaille actuellement avec un zoo pour que les enfants... Moi, ça a été développé pour mes filles, en fait, ce produit-là, parce que mes filles, chaque fois que je dis lion, ils font le bruit du lion.
Ouais.
Puis la première fois qu'on est allé au zoo, ils étaient extrêmement déçus que le lion ne crie pas en permanence, c'est qu'ils ne l'ont pas entendu. Fait qu'on a développé, exemple, un bracelet où l'enfant va arriver devant le lion, va scanner, ça va faire « rar » directement. Donc, faire vivre des expériences interactives reliées directement à ce qu'on appelle un « device connecté ».
Wow, impressionnant. Puis, ton livre aussi.
Oui, je sors le deuxième. On est en train de finaliser justement le deuxième qui va sortir probablement en octobre ou septembre. Pour tout ça, le premier livre a été « J'aime les TDAH ».
Que tu as écrit avec Kim Ross.
Exact. On a écrit le livre ensemble, typique histoire de TDAH. C'est une conversation de couloir qui finit par un livre, un documentaire, une fondation.
Wow.
Mais on était tanné que le TDAH soit associé à « si t'as un TDAH, t'es obligé de faire un DEP ». C'est le mieux que tu vas être dans la vie. Puis je veux pas dénigrer ces métiers-là, mais c'est plombier, peut-être électricien. Si t'es chanceux, pour nous, le TDAH, c'était la meilleure chose qui nous était arrivée pour être différent. Fait qu'on a décidé un peu de démocratiser, mais aussi de passer un message de confiance relié à ça.
Mais je vais y aller tout de suite dans tes croyances. Puis une de tes croyances limitantes aurait pu être justement ton TDAH. T'sais. Puis il semble que tu t'en es servi comme croyance responsabilisante aussi.
Ouais, mais je dis toujours, je pense que la folie est probablement la chose qui m'aide le plus.
La folie, c'est un grand mot. Là.
La folie, c'est un grand mot. Je dirais qu'à un certain moment, je suis plus ou moins conscient. J'ai une certaine inconscience, puis depuis que je suis petit, j'ai une inconscience du risque. Fait que je suis souvent un peu de difficulté à calculer c'est quoi le risque, c'est quoi pas le risque.
Je ne sais pas si j'utiliserais inconscient. Intuitif.
C'est peut-être intuitif.
Ou tu n'es peut-être pas extrêmement rationnel, parce que tu peux pas te calculer avec ta tête. Fait qu'il y a un endroit dans toi auquel tu lui fais confiance, puis tu penses que ton TDAH te permet d'aller là?
Oui, ben je pense que le TDAH permet de... La première chose, c'est que les gens comprennent souvent pas que le TDAH, ce n'est pas de ne pas être attentif. Souvent, on dit à quelqu'un, TDAH n'est pas attentif, c'est faux. On est ultra attentif uniquement à ce qui nous intéresse. Fait que c'est un peu comme une pieuvre sur laquelle il y a des radars sans arrêt, puis on essaye d'accrocher la chose la plus intéressante. Donc, pendant qu'on se parle, si par exemple, il y aurait un bruit à l'extérieur que je trouverais bien, bien le fun dans mon cerveau, j'aurais une difficulté à suivre notre discussion. Mais si je trouve notre discussion passionnante, je ne vais plus rien entendre autour d'une discussion. Donc, ça peut être une force, parce qu'en affaires, on a besoin d'un ultra-focus, mais on a aussi besoin d'une pieuvre qui essaye d'attraper à peu près tout ce qui se passe autour de nous.
Puis toi, évidemment qu'il y a bien des choses qui t'intéressent.
Je suis exactement. Puis je suis passionné fois mille. Et mon plus grosse difficulté, c'est que je suis incapable de faire des choses que je n'aime pas, ce qui est quand même difficile puis que mon associé a dû accepter. Je peux, en plein milieu d'une discussion client, m'en aller. J'ai très, très peu de notions aussi du « politically correct ». Donc, ça amène aussi...
Mais encore une fois, ça, je ramènerais ça à la conscience, puis au côté...
Puis à la personnalité, je pense.
Puis à la passion, puis c'est ce qui fait, c'est ce qui explique ton succès dans une période aussi courte que tu as eue, parce que tu suis ton instinct, t'écoutes ton instinct, t'es présent, tu vois. Puis ça m'amène à une autre de tes croyances qui aurait été potentiellement limitante, aussi. Tu viens d'un milieu...
Modeste.
Et... tu t'en es servi comment?
Je pense que c'est j'utiliserais pas la rage, mais en fait, j'ai de la difficulté encore à savoir de pourquoi. Quand je donne une conférence, une slide, un peu une rage ou un peu mon côté rebelle qui a toujours été présent toute ma vie. Mon père est banquier. Puis je la raconte souvent en conférence, mon père est banquier. Puis je dis à la blague qu'il souhaitait que je sois malheureux de 8 à 4. En fait, que son espérance puis toute ma jeunesse...
Il voulait t'imposer son modèle de comment la vie devrait être.
Exactement. Puis j'ai donné la conférence la première fois qu'il me voyait après 7 ans de conférence dernièrement. Puis je me demandais si j'enlevais la slide parce qu'elle peut être blessante pour lui. Puis j'ai décidé de la laisser. Puis ça a amené une discussion intéressante dans l'auto où il m'avait dit, moi j'avais dit, tu sais, père, je pense que ce que tu voulais, c'est que je sois malheureux de 9 à 4, mais que je sois heureux à 60 ans une fois que j'aurai ma pension et ma retraite. On vient du lac Saint-Jean. Je trouve que mes parents, quand je dis du petit monde, c'est très positif. C'est des gens extrêmement heureux, sont encore en couple, ils sont beaux, ils sont affectueux, mais la notion de succès, tout ça, c'est un peu relatif pour eux, puis c'est un peu difficile à accepter. Et mon père m'avait dit, moi je prête pas de l'argent aux gens, je les mets en faillite. Parce que c'était une période difficile, crise du bois d'œuvre au Saguenay.
Ah, ouais.
Quand tu travailles dans une banque à Montréal ou tu l'as vécu à Wall Street, souvent tu ne croises pas les gens avec qui tu as peut-être dû réclamer des sommes. Quand tu habites à Saint-Félicien, qui a 8000 habitants, ben, le gars qui a mis en faillite,
à l'église. Et puis,
il avait reçu des menaces de mort. Ça n'était pas facile pour lui. Ouais. Fait qu'il a essayé de me pousser à, je dis toujours, avoir une femme, 5 enfants, un chien, une routine. Mais c'était complètement contraire à, tu sais, quand tu parles de l'essence.
Ouais.
À 12 ans, quand il y avait un concours qui s'appelait l'art de s'exprimer, tout le monde voulait être pompier, policier, puis c'était sur le métier d'avenir, mais moi, je voulais être Bill Gates. Déjà à 12 ans, c'était je m'identifiais à ces gens-là, qui n'étaient pas du tout des gens autour de moi, mais je me voyais pas être un métier, je me voyais être quelqu'un.
Fait que le modèle que ton père voulait t'imposer, pour que lui utilisait pour se sécuriser, puis qu'il voulait se sécuriser en t'attendant, fitait pas du tout avec toi, puis déjà t'as compris ça.
Ouais, c'était vraiment à l'intérieur de moi. En fait, j'ai toujours, à chaque fois qu'on me dit non, j'ai dit oui.
Fait qu'encore une fois, t'as utilisé une de tes croyances potentiellement limitantes comme responsabilisante pour te pousser ailleurs. T'as-tu d'autres croyances qui auraient pu te limiter?
D'autres croyances, tu l'as adressé, le TDAH, c'est probablement celle-là qui encore me revient le plus souvent, même en couple, tu sais, qui est assez difficile, où des fois ma femme pense que je mets les choses sur la faute du TDAH.
Tu sais, quand je mets les choses sur la faute. Je le fais. Tu te déresponsabilises d'une certaine façon?
J'ai de la difficulté à dire se déresponsabiliser parce que je pense que quand on l'est pour vrai, puis pour avoir un gros débat, c'est si on l'est ou on l'est pas, là, parce qu'aujourd'hui.
Parce qu'il y a des gens qui se disent sans
aujourd'hui, c'est une facilité.
Oui, c'est ça. Ils se déresponsabilisent, c'est facile, c'est mon TDAH, puis c'est pas de ma faute.
Exact. Quand tu l'es pour vrai, ça peut être intense. Sincèrement, de partir avec ma valise pour partir à Paris, mettre ma valise à côté de l'auto, rentrer en auto, chercher un papier, puis partir sans ma valise.
Fait qu'à Paris, tu t'as acheté une nouvelle valise.
En fait, là, il a fallu qu'elle me shippe la valise, pas prendre le bon passeport. C'est constant. Encore, je suis pas prêt à dire que je mets la faute là-dessus, mais d'avoir eu un diagnostic m'a permis quand même de comprendre des choses.
Puis au niveau professionnel, est-ce que ça t'amène à avoir un certain checklist, à avoir une façon de te surveiller, avoir un rituel pour voir si t'as oublié quelque chose ou...
Je dirais que oui, évidemment, je l'ai, mais c'est aussi de savoir s'entourer. On regarde chez Connect & Go, je dis toujours à la blague que je suis la mascotte de l'entreprise. Mm-hmm. Fait que je suis pas un opérateur. C'est une des choses que j'ai dû laisser aller. Mm-hmm. Je suis pas un opérateur, je me considère
pas. C'est une croyance limitante, ça, ou c'est une conscientisation?
Je pense que c'est la conscientisation. Ouais. En fait, c'est pas que je pourrais pas l'être. Ouais. C'est que je n'ai pas du tout envie
de
l'être.
Puis on revient avec tes passions, puis tu ne peux pas faire ce que tu n'es pas passionné.
Être au day-to-day dans le bureau, moi, mon bureau, bon, tu l'as vu, c'est un bureau debout. J'aime pas rester en place. J'ai beaucoup de difficultés à faire quelque chose de répétitif. Donc, j'ai accepté aussi d'être ce que je suis purement, Ça déplace de l'air. C'est pas tout le monde qui apprécie. Hein. Souvent, les gens, j'ai pas beaucoup de zones grises. Ils ont même où on me déteste. Il y a peu de milieu. Mais j'ai un associé qui est justement plus un antipode de moi, malgré qu'on se rejoint sur les mêmes valeurs, qui est plus un opérateur, qui aime suivre au day-to-day ce qui se passe. Moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il m'intéresse pas vraiment. C'est on va être où dans 3 ou 5 ans tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque année, je suis comme, on va être où dans 3 ans, on va être où dans 5 ans. C'est ce qui m'excite.
Et souvent, les croyances limitantes viennent à partir de certaines peurs. As-tu eu peur? As-tu encore peur? Est-ce qu'il y a des peurs qui t'habitent?
J'ai plusieurs peurs. Je dirais que la principale peur, c'est ce que j'ai dit de mon père qui me disait, moi, je mets des gens en faillite.
Ouais.
Du fait que j'ai vécu de passer à deux doigts de la faillite. En fait, proposition consommateur peut être considérée comme une faillite. Je dirais que depuis ce temps-là, je suis extrêmement insécure financièrement.
Ah oui?
Malgré que ça va extrêmement bien. J'ai aucun placement. En fait, tout est dans mon compte épargne pour pouvoir y toucher s'il arrive quelque chose. Je deviens très, très insécure dans des périodes de difficulté parce que avant je banalisais l'aspect de tout perdre. Aujourd'hui, étant papa de deux petites filles, avec une femme,
il y a une certaine responsabilité que tu peux pas te retrouver tout seul sur un banc de parc, là.
Moi, je trouve pas ça si grave parce que je viens d'un milieu modeste, puis je me rappelle que j'étais heureux. Fait que je me dis à quel point les biens et tout ça sont importants. Reste qu'aujourd'hui, j'ai développé une insécurité à échouer et aussi une peur de l'échec, malgré que je valorise l'échec, une peur, parce que je dis toujours, ça a été très difficile ma dernière expérience entrepreneuriale et j'ai pas l'impression que j'ai une autre chance de faire un aussi gros échec.
Puis qu'est-ce que tu penses de la thèse que quand t'as peur, tu l'attires un petit peu? Tu sais, l'exemple, quand tu t'en vas en voiture, puis ta voiture dérape, puis il y a juste un arbre, puis t'as peur de rentrer dedans, puis la chance, c'est que tu vas probablement foncer dans l'arbre. Qu'est-ce que t'en fais? Si t'as peur de l'échec, si t'as peur de l'insécurité financière?
Je suis un peu paradoxal. Fait que j'ai peur de l'échec, mais je prends probablement les plus gros risques qui peuvent se prendre en affaires.
OK. Fait que t'es conscient de la possibilité de perdre l'argent, mais ça t'empêche pas de prendre du risque.
Je me mets à l'abri aussi de mes peurs. T'sais, comme Anthony, justement, est un peu contraire à moi. T'sais, quand je deviens extrêmement stressé financièrement, de dire, faudrait couper des gens, le mois va mal, il me ramène toujours de c'est où qu'on veut aller, c'est quoi qu'on fait, c'est quoi la valeur qu'on crée. J'ai réussi à me ramener, mais je suis d'accord que j'ai probablement pris beaucoup de décisions, des fois par peur, qui m'a amené effectivement à prendre des mauvaises décisions.
Mais ça t'empêche pas de prendre du risque, ça t'empêche pas de prendre de l'expansion, ça t'empêche pas d'amener des nouveaux produits. Puis comme tu l'as dit tantôt, ben tu es bien entouré avec Anthony, lui qui est un peu plus rationnel, puis tu te sécurises dans ces moments-là. Est-ce qu'il y a du plaisir à un moment donné? Est-ce que la peur fait place au plaisir? Est-ce que des fois, tu accueilles ta peur puis tu comprends que ta peur est là pour t'aider? Puis comme tu l'as dit un petit peu, ça t'empêche pas de prendre du risque, mais est-ce qu'il y a un plaisir à un moment donné de prendre...
Je pense que oui. Je pense qu'il y a un plaisir. En fait, si j'aurais pas de plaisir, je serais plus là. Puis c'est assez sérieux. Hein? Si j'aurais plus de plaisir pendant quelques mois chez Connect & Go, je quitterais l'entreprise sans problème. Ouais. Tout le monde le sait même.
Puis là, déjà, je suis content que tu sois encore 10 minutes avec moi dans l'entrevue. Là. Merci beaucoup, ça veut dire beaucoup pour moi.
Ça veut dire que je suis là. Moi, tu l'as vécu quand on s'est vu à la dernière réunion. Je peux, si je trouve ça long, je peux m'endormir. Je suis un peu, effectivement, de ce côté-là. Mais oui, j'ai énormément de plaisir. En fait, Puis encore, mon plaisir se retrouve dans la peur, mais surtout dans l'objectif. Je suis très, très orienté objectif. En ce moment, exemple, on vient de s'attaquer au milieu du ski. Tout le monde avait dit que ce serait impossible. Les deux géants sont des entreprises monumentales en Autriche. Il n'y a personne au Canada. Il y a au moins 20 personnes qui me disent « Tu ne réussiras pas à développer un système de contrôle d'accès dans le ski. » On est rendu à 4 montagnes et là, on est en train de gagner. Donc, pour moi, c'est cet aspect-là et j'aime être le petit tannant qui dérange les gros joueurs. Et c'est ce que je veux comme position.
Et t'aimes faire mentir les naysayers, là?
C'est effectivement. J'ai été refusé dans 3 universités. J'ai enseigné dans les 3. J'ai pas de maîtrise. Je suis prof à la maîtrise. J'aime un peu, effectivement, ce côté-là que je pourrais dire des vengeances de la vie. Je sais pas si c'est sain de le faire, mais inconsciemment, je sais que ça satisfait un besoin.
Mais tu le fais parce que tu l'as, frère. Tu le fais pas pour écœurer le monde. Je te connais, t'es un bon gars. Là, mais tu le fais pas pour prouver des choses. Tu le fais pour le prouver à toi parce que tu l'as, frère, puis parce que ça te passionne. Là,
c'est aussi un peu de prouver que le système, pour moi, est brisé. C'est entre autres, mais je te dirais que mes 3 prochaines années...
Tout à fait pour ceux qui pensent pas carré.
Mes 3 prochaines années visent à révolutionner un peu le monde scolaire. Tu sais, je travaille avec Kim à peut-être ouvrir une école. Fait qu'on est dans le pré-projet de créer notre propre école pour les gens qui ont des troubles d'apprentissage. Et c'est ce besoin-là de prouver que c'est pas parce que tu viens d'un milieu modeste, c'est pas parce que tu t'es fait mettre dehors de l'école que tu vas pas réussir dans la vie.
Mais ça m'amène à l'autre question. Là. C'est qui Dominique Gagnon, au-delà du TDAH, Successful, l'entrepreneur, qui vit, c'est quoi la pièce là, maîtresse qui t'a suivi depuis que tu as 12 ans, puis aujourd'hui jusqu'à 32 ans, puis qui va te suivre encore, au-delà de tout ça, qui est ni plus ni moins quand même à l'extérieur de toi, tu as parlé d'une des choses, toi, la passion, premièrement, ça t'habite, mais quoi d'autre? Tes valeurs?
Mes valeurs, ben, tu sais, puis je pense que ça change. C'est ce que j'ai trouvé intéressant. Je pense qu'on dit souvent qu'on est la même personne. J'ai quand même énormément changé sur les 30 ans. Je dis que j'ai eu des cycles de 10 ans. C'est sûr que depuis que je suis papa, c'est très, très différent. Je vois la vie complètement différemment depuis que j'ai les filles. Là, c'est vraiment été un gros changement pour moi.
Oui?
Oui, vraiment un gros changement.
À quel niveau?
J'étais un peu pas égoïste. Oui. Mais en fait, j'aime faire ce que je veux quand je veux sans demander à personne. Je n'aime pas avoir des responsabilités et des obligations. Et tout d'un coup, je suis arrivé avec les deux plus grosses responsabilités et obligations qui est de prendre soin des enfants.
Ouais.
Ça a été, je dirais, une des plus grosses difficultés. Tu sais, la première année, j'ai trouvé ça horrible,
ah,
sincèrement.
Oui, hein?
Oui, de devoir, de pas pouvoir dire on part en voyage puis partir dans les 15 minutes, de me faire dire non, faut amener plein d'affaires. De pas pouvoir décider quand je dors pas. Parce que si la petite dort pas, on dort pas. Aujourd'hui, je prends ça avec grande passion, je le découvre. Mais je pense que ce qui m'habite depuis toujours, c'est un besoin de changer les choses. Je sais pas pourquoi, mais très, très petit, j'étais déjà toujours en train d'essayer de briser pour reconstruire, pour transformer. Puis c'est ce qui me passionne autant dans la façon d'éduquer mes enfants, dans la façon de travailler. Le côté disruptor qui est un peu classique de la série.
Évidemment que tu es là-dedans, toi, là.
Je suis là-dedans en affaires, je suis là-dedans aussi personnellement. Tu sais, c'est comme. Puis j'ai un besoin de m'impliquer socialement assez fort. Je l'ai toujours été, mais.
Mais attends, tu y faisais référence au niveau de l'éducation.
De l'éducation, de la maladie mentale. Tu sais, j'en parle énormément de maladie mentale. J'ai toujours que quelqu'un de sain devrait voir un psy à chaque semaine.
C'est pas quand t'es malade.
C'est pas quand t'es malade.
C'est pas quand t'es malade.
Mes parents pensent toujours que je vais me suicider. Chaque fois que je lui dis que j'ai vu un psy dans la semaine, ça, c'est l'aspect encore tabou de la maladie mentale.
Ouais, t'sais. Tout à fait.
Fait que j'ai ce côté-là, je pense, profond. Je suis un hyper-émotif. Évidemment, ça vient souvent...
Hyper-émotif?
Oui, hyper-émotif. C'est autant
tu sens les choses. Fait que ça, j'en reviens un petit peu avec ton côté intuition qui n'est pas rationnel, qui t'es connecté. Fait que tu sens les choses à quel niveau?
Ah, un niveau extrême. Je dirais... tu sais, pendant, j'habitais à Québec dernièrement, fait que je partais 4 jours semaine. Pendant les 2 dernières années, à chaque fois que ma fille était triste parce que je partais, je pleurais pendant 20 minutes dans l'auto avant de partir. J'aime les gens éperdument ou je les déteste foncièrement. J'ai une difficulté d'être dans une zone grise.
Tu pleures-tu en conférence?
Je pleure, en fait, quand je parle de la tumeur au cerveau de ma femme, quand elle avait eu une tumeur au cerveau, au moment où j'étais en train de tout perdre, qui a été des moments extrêmement difficiles. Fait que souvent, je dirais que je suis plus au stade de pleurer parce que tu sais quoi, donner une conférence, quand tu l'as donné 40 fois, ça devient pratiquement un spectacle.
Moi je pleure quasiment
tout le temps.
Tout le temps. Mais...
Moi, j'ai le menton qui monte. Que j'ai appris à gérer, parce que l'autre problème, c'est que si je me mets à pleurer, ça me prend un bon bout de temps avant de m'en remettre.
Okay,
je
ne
suis pas capable de faire un clic très, très rapide. Mais oui, j'ai encore les émotions. La première fois que mes parents sont venus me voir en conférence, j'étais les mains moites, extrêmement stressé, ce que je ne suis pas habitué. Mais oui, je suis vraiment un hyper émotif. Donc.
Fait que cette espèce de goût du changement, de changer les choses, de prouver que le système ne marche pas, ça t'habite, ça c'est la pièce maîtresse dans toi depuis que tu as 12 ans puis jusqu'à aujourd'hui, ouais. Puis qu'il faut t'habiter. Puis ça m'amène peut-être à la prochaine question. C'est quoi l'intention ultime de ta mission? Tu viens pour quoi, toi? Qu'est-ce que tu fais ultimement, là, au-delà de vendre des bracelets qui connectent? Là, qu'est-ce qu'il fait?
Oui, puis encore, tu sais, vendre le bracelet qui connecte, c'est pas ce qui m'excite. Ce qui m'excite, c'est de voir les gens l'utiliser puis de voir les gens heureux.
Ouais. Voir les gens heureux.
Voir les gens heureux, je pense, de faciliter la vie aux gens.
Faciliter la vie aux gens.
Je pense que ça, c'est important. Puis c'est sûr, je suis encore en train de me questionner. Fait que j'ai pas la réponse. Je sais que je veux, depuis que j'ai des enfants encore plus... Je veux marquer le Québec, si je peux le dire comme ça, puis évidemment, je veux laisser ma trace. De quelle façon je vais le faire?
Mais d'un point de vue d'égo, tu vas avoir ta statue à quelque part?
Pas du tout, en fait. Puis même à ça, je regarde, tu regardes le projet de livre que j'ai fait, tout le monde en parle, j'ai demandé de ne pas être là, j'ai dit à Kim de y aller, parce qu'elle est beaucoup plus connue que moi, puis c'était beaucoup mieux que ce soit elle. J'avais pas besoin de la plateforme. Ce que j'avais besoin, c'est quand j'ai donné une conférence à l'Institut des troubles d'apprentissage, j'ai 6 enfants qui sont venus me voir, juste me faire une colle-colle quand je les connais pas, puis me dire merci. C'était complètement débile. C'est un des plus beaux sentiments. C'était pas qu'ils me reconnaissent.
Pour quelqu'un qui est connecté à ses émotions, qui est connecté à sa conscience, puis tu t'es reconnu là-dedans?
Je me suis énormément reconnu.
Ouais. Puis c'est ça que tu vois peut-être. Fait que ton intention d'aider le monde, es-tu l'intention d'aider le petit Dominique à quelque part?
Probablement. Surtout avec le système scolaire. Tu sais, je me suis fait dire que je ne fais jamais rien de bon dans la vie, etc. Ouais. Quand je te parlais de rage, j'ai un peu cette rage-là de dire « moi, j'ai été chanceux ».
T'en as souffert, finalement.
En fait, je sais pas si j'en ai souffert, parce que j'ai réellement pas été très malheureux de ça.
Non. Mais la rage, elle venait de où?
La rage est plus de savoir que quelqu'un d'autre pourrait énormément souffrir. J'ai la chance, peut-être.
OK. Mais même à un jeune âge, fait que tu avais de l'empathie
pour que
les autres pouvaient vivre dans une condition qui avait une condition similaire à la tienne.
Je pense que oui. J'ai ce côté-là, ce besoin-là de dire, OK, j'ai toujours eu l'impression que je suis un peu le tough. T'sais, je suis un peu plus fort que beaucoup. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça me vient, mais je suis capable de prendre énormément de coups. Mais je vois des gens autour de moi qui n'ont pas cette capacité-là, puis c'est très correct, et ça me frustre. Parce que quand je me dis, bon, moi, on me dit que je ne ferais jamais rien de bon à l'école, ça me poussait à être bon. Mais il y a des gens que ça va complètement anéantir et pas permettre d'y aller. Et je suis un peu frustré parce que les plus grands génies que j'ai rencontrés, puis dans mes employés, c'est souvent des gens complètement différents. On a travaillé avec un autiste au bureau, on a eu des gens de différentes formes de pensée puis de cerveau. Ça, c'est quelque chose qui me fascine.
Mais c'est paradoxal que tu es un émotif et un tough.
En fait, effectivement. Je suis un émotif, mais je pense que je vis mes émotions, ce qui me permet d'être tough.
C'est ça. Fait que tu les exprimes, tu les refoules pas.
J'ai aucun problème de pleurer devant ma femme, de pleurer devant les enfants. Puis ça s'exprime de différentes façons. Ça peut s'exprimer par le sport à certains moments, par la rage. J'ai fait de la boxe quand j'étais jeune, mais il y a des moments où je peux avoir besoin de cogner dans une porte. S'il faut que je cogne dans une porte, je suis capable d'extérioriser. Je pense un peu ce que j'ai, ce qui m'aide à passer au travers. Mais oui, je suis hyper émotif.
Tu as parlé de génie. En es-tu un, toi?
Je pense pas. Non. Je pense encore qu'on catalogue le génie souvent par le QI, l'intelligence de ce côté-là. Mm. De ce côté-là, je suis quand même bien nanti. J'ai cette chance-là. Mm. Après, il y a l'intelligence émotionnelle que j'ai dû apprendre. Mm-hmm. Parce que c'est pas inné.
C'est pas ton père qui t'a montré.
C'est pas un père. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents très affectifs.
Ouais.
Physiquement encore, j'arrive à la maison de mes parents, je me couche encore la tête sur ma mère qui me joue dans les cheveux. Je suis très, très physique aussi de ce côté-là.
Chanceux. Puis ça, c'est probablement une de tes forces, d'ailleurs. Parce que la peur de ne pas être aimé, là, c'est une peur qui peut nous habiter longtemps. Puis si toi, tu as eu ça, c'est probablement ce qui te donne une certaine façon ton courage et qui t'aide à passer par-dessus tes peurs et avoir du plaisir de savoir que tu as ça.
Très probablement. J'ai quand même, ça m'a amené de l'autre côté d'avoir un gros besoin d'affection. Parce que j'en ai reçu énormément étant jeune. J'ai pas reçu énormément de biens, d'argent. J'ai reçu énormément d'affection.
T'en demandes à ta femme.
J'en demande, c'est pas facile parce que ma femme est mon antipode. Ma femme a été élevée par un avocat qui a été dans le passé avocat des Cotroni, les chefs de la mafia.
Ah ouais.
Élevée à la dure, élevée un peu à pleurer, c'est pas important. Qu'est-ce que tu portes, c'est très important. Donc, vient un peu d'un milieu très différent du mien. Et elle, justement, elle a un besoin affectif moins grand que moi. Fait que ça a été justement un défi. Je dirais de ce côté-là. Fait que je recherche un peu, la reconnaissance définitivement, mais c'est pas la reconnaissance sur l'aspect de gagner des prix puis me faire dire que je suis bon. C'est plus la reconnaissance de l'affection que tu peux recevoir de ça.
L'amour.
La fierté des autres, l'amour. Je suis fier que mes parents soient fiers. Extrêmement fier. Fait que je gagne énormément de prix pour mes parents.
Ah oui, hein?
Je pense que oui.
Ouais. Et est-ce que... Tu l'as dit un petit peu tantôt, là, mais... Est-ce que tu trouves l'équilibre entre la tête et le cœur? Est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu...
J'ai toujours dit que je pense que l'équilibre n'existe pas. J'ai beaucoup
c'est
de
une illusion un peu.
C'est une grosse illusion. Ouais. Je pense que je pourrais te dire, il y a une journée que je suis complètement équilibré entre la tête et le cœur. Il y a d'autres journées où je suis complètement déséquilibré. Il y a des journées où je suis complètement sur le cœur et d'autres journées complètement sur la tête.
Mm-hmm.
Et je dommage les deux en permanence.
Mm-hmm.
Mais je dirais que j'ai encore énormément de débats de conscience... parfois d'envie d'être beaucoup plus présent à la maison pour justement l'aspect de mon cœur, de mes filles, de les voir grandir, mais avec un besoin énorme de conquérir le monde et d'aspect professionnel.
C'est difficile, je veux dire, quand tu es évidemment un jeune homme dans une compagnie en expansion, de trouver cet équilibre-là, là, d'être un papa, un mari, puis d'être un entrepreneur à succès. Tu es tiraillé, mais au moins tu en es conscient, puis je veux juste revenir là-dessus. Moi, les gens me demandent souvent si je suis en équilibre. Oui. Et j'ai écrit deux livres sur le sujet, mais puis ma réponse, c'est non.
C'est non, ouais.
C'est non, tu sais, parce que le moment où tu te dis « je suis en équilibre », ben tu l'as concrétisé avec ton intellect dans un certain moment, puis tu t'es mis sous la loi des accidents. L'équilibre est dynamique, se trouve au quotidien. Mais tu cherches à la trouver, puis tu en es conscient.
Oui, je cherche continuellement. Je suis incapable de... J'ai souvent des débats de valeur entre l'aspect qu'aujourd'hui, je vis bien, j'ai relativement de l'argent, et qu'est-ce que j'ai envie de laisser à mes enfants? T'sais, j'ai un débat entre les gâter, parce que j'adore faire plaisir, et un débat envers la vie, de choisir de plus de lui montrer que la vie, c'est pas facile, d'être un peu plus, je dirais, très minimaliste. Donc, même quand je choisis une voiture, pour moi, c'est un combat de ma tête et mon cœur. Ma tête me dit « t'as le droit de te payer la belle auto », mon cœur me dit « ça donne quoi? » Et je suis toujours un peu à la recherche.
Mais ça, c'est la conscience, là. Puis tu l'as dit tantôt, tu sais, déjà au début, là, t'écoutes pas ton esprit rationnel, t'écoutes l'autre endroit, puis peut-être que ton TDAH aussi, d'une certaine façon, dans ta vie personnelle, t'amène dans cet endroit-là.
Probablement que oui, parce que justement, le TDAH...
T'es connecté puis via tes émotions en plus, puis comme tu disais, la pieuvre qui scanne le moment, ça fait que t'es vraiment comme présent dans le moment, connecté aux émotions, puis tu te poses des questions que plusieurs d'entre nous ne se posent pas. J'ai du cash, je vais m'acheter la plus grosse voiture comme mon cash me permet, comme j'ai fait longtemps.
C'est ce que j'ai fait avant de chuter. T'sais, c'était mon ego, je buvais du champagne tous les jours... Je payais la Roomba à tout le monde. En fait, je pense que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir tout perdu.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, je suis conscient de c'est quoi posséder, je suis conscient de c'est quoi perdre. Et je suis plus conscient de la valeur des choses, de la valeur du travail, des risques que je prends. Ça m'a amené justement... Je pense que si j'aurais pas échoué, j'aurais probablement frappé un plus gros mur.
C'est intéressant ce que tu dis. T'sais. Puis souvent, j'en parle en conférence, mais on a de la difficulté à le voir, mais il y a souvent... un cadeau dans l'échec.
Ouais. Énorme.
C'est jamais le fun. C'est jamais le fun d'aller là, mais si on est capable de l'accepter, de voir les leçons, on peut en sortir grandi, puis comme t'en es sorti grandi. Puis là, toi, t'es en mission, t'es partout, tu veux changer le monde, tu veux rendre la vie plus facile, tu te sers de tes passions, t'es connecté, tu te sers de tes émotions. T'as-tu un rituel pour garder la foi dans ta mission? Y a-tu quelque chose? Je sais que tu fais du gym un peu.
Ouais, je fais du squash.
Ouais.
J'adore le squash quelques fois par semaine. Je dirais que je le fais. J'écoute énormément de balados et de livres audio.
Ouais.
Puis
t'écoutes Anthony aussi. Ouais. Anthony qui fait partie de ton rituel. Je pense qu'il te garde
exact.
Connecté.
Tu le dis. On se parle trois fois par jour.
Ouais.
Soit ma femme l'appelle ma deuxième femme, mais on se parle trois fois par jour. Là, il est à Shanghai en ce moment. Donc, on se parle sur le décalage, comment ça a été à Shanghai. On se craint aussi, qu'on le veuille ou non. On s'automotive de « Oh, wow, ce qui se passe à Shanghai, moi, je m'en vais là. » Je suis un fanatique de bouffe. Je suis vraiment un foodies fini. Donc, je dirais que je vais cuisiner pour me recentrer. C'est une des seules places où je réussis à décrocher complètement de tout.
Et c'est une forme de méditation. Selon la culture zen, hein, tu sais, jardiner, méditer, puis cuisiner sont des activités zen. Si t'es capable d'être là, puis ah oui, tu fais ça. Hein?
100%. Cuisiner est probablement la chose. Autant cuisiner que même manger en soi, d'essayer de découvrir c'est quoi qu'il y a dans le repas, d'essayer de reproduire la recette par la suite, c'est vraiment quelque chose que...
Pas pour impressionner la galerie, pas pour faire des posts sur Instagram.
J'ai plus besoin. Regarde, je suis très peu actif, à part sur LinkedIn, dans lequel j'ai conscience que ce que je fais a un impact sur la compagnie.
Mais c'est important, t'as pas le choix.
Instagram, c'est mes enfants, c'est quelques photos. Je ne montrerai jamais de photos de ma maison, de ci, de ça. Je trouve ça non nécessaire. J'ai eu cet ego-là. Je dis toujours aujourd'hui, j'ai balancé entre l'ego et la confiance en soi. Je ne cacherai pas que je peux avoir une impression extérieure d'avoir de l'ego. J'ai très confiance en moi. J'ai toujours dit à Émilie, le pire qui va nous arriver, si j'échoue, c'est que je vais repartir. Je vais me trouver une grosse job parce que je sais que je suis bon. Sincèrement, dans ce que je fais, je pense que je suis bon. Mais j'ai laissé l'arrogance et l'ego de ce besoin-là de regarder je suis qui. Je trouve que ça a vraiment été quelque chose que j'ai diminué, mais tu sais, à l'aide de psychologue, à l'aide de réflexion de tout ça.
J'aime ce que tu viens de dire. Je sais que je suis bon.
Oui, je pense.
Et c'est mal vu un peu de dire
Québec,
ça
surtout.
Au Québec, puis l'espèce de, tu sais, il faut que tu sois humble, et ainsi de suite. Puis c'est important parce qu'à notre insu, on a souvent ces pensées négatives-là. OK? Et ça, pour moi, ça fait, si tu te le répètes, puis tu le répètes souvent à Émilie, ça fait partie du rituel pour garder la foi en qui tu es, pour garder la foi en ta mission, parce que ces pensées négatives-là viennent à notre insu. Et de se dire, je sais que je suis bon, je le sais que je suis capable, je le sais que je suis capable d'avoir un job, premièrement, c'est une marque d'amour. Ouais. Puis on se crée une nouvelle façon de penser, puis après ça, quand il t'arrive des difficultés, mais tu ne vas pas t'affaisser, tu ne vas pas tomber en dépression, tu le sais que tu es capable. Puis, c'est pas « je sais que je suis meilleur qu'Anthony ».
Non, pas du tout.
Non, mais elle est là, la nuance. Puis c'est important de s'aimer, puis de reconnaître la vérité.
Oui, c'est de l'apprendre. Parce que tu vois, je sais que je suis bon au travail, mais ça m'a pris un an de commencer à me trouver bon comme père.
Ouais.
Tu sais, je commence à être capable de dire à ma femme, je sais que je suis un excellent papa.
Bien, parce que tu as trouvé ça difficile au début, puis tu l'as dit, tu n'étais pas nécessairement passionné au début.
Les
parce
gens
que
tu as
vu les embûches.
Ben, j'ai pas de filtre. Fait que, tu sais, quand les gens me diraient « Ah, puis c'était comment la première année? Horrible. Ouais. » Et j'ai pas de problème de l'assumer, ouais. La vérité,
ouais.
C'est que j'ai trouvé ça horrible. C'est pas que j'aimais pas ma fille, c'est ouais. Que j'ai trouvé ces moments-là ouais. Horribles parce qu'ils m'ont déséquilibré.
Ouais.
Ils m'ont enlevé le côté égoïste que j'avais pas le choix de laisser, de dire « Je ne peux plus penser qu'à moi.
Ouais.
Je dois penser à deux autres petites personnes qui sont là. » Mais c'est encore un débat. Tu sais, je pars à Paris vendredi, j'ai besoin aussi de ma liberté.
Oublie ça pas ta valise aussi. Hein.
Là, je vais essayer cette fois-là. C'est le passeport le plus compliqué. La valise, ça se rachète. Le passeport, il ne te laisse pas passer. J'ai pris lui de ma femme trop souvent. Mais ce défi-là d'être capable de dire « OK, j'accepte l'aspect qu'il y a des moments où j'ai besoin d'être seul. » Je me sens pas coupable. Des fois, les gens me disent « Ah, tu ne te sens pas coupable d'être pas si présent. » La différence, c'est quand je suis présent à la maison, je suis zéro sur mon téléphone, je réponds pas à des appels. Mes enfants sont pas sur un iPad. On joue, on fait des blocs, on s'amuse. Je suis moins présent que quelqu'un qui est là tous les soirs, tous les jours de la semaine, mais quand j'y suis,
présent,
j'y
suis. Je suis présent. Merci beaucoup.
C'était
très plaisant de t'avoir rencontré, d'avoir passé une petite demi-heure à jaser avec toi, puis de constater que tu es capable de nourrir ta tête sans affamer ton cœur. Bon succès, Dominique Gagnon. Bon succès à Connect & Go, puis à toutes les autres affaires qui vont arriver de toi. Merci beaucoup.
Always at every moment, be aware of what you're doing. Watch yourself.